débat de Radio Axor, animé par Michael Lassel.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre dans cette émission Les Débats de Radio Accor avec ce soir la deuxième partie de l'émission enregistrée lors du festival du film ornithologique de Ménigout. Une deuxième partie donc toujours sur les invasions biologiques, une question de nature et de société avec cette fois-ci un débat construit à partir des questions du public qui assiste ici à Ménigout à cet enregistrement. Pour répondre à ces questions, nous avons toujours parmi nous deux intervenants de la veille, M. Jean-Louis Chapuis du Muséum d'Histoire Naturelle et M. Jacques Pigeot du lien Littoral, Environnement et Société qui pourront répondre à des questions qui leur sont plus spécifiquement adressées. Nous avons également parmi nous Laurence Marcillot. Laurence Marcillot, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes élue conseillère régionale à la région Poitou-Charente et nous verrons avec vous quelles sont les mesures prises par la région pour lutter contre les invasions biologiques. Nous avons également parmi nous Pierrick Marion. Pierrick Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous représentez l'ADREAL et vous nous direz à ce niveau-là ce qui est fait pour lutter contre ces invasions. Toujours parmi nous Michel Caillon, bonsoir. Vous représentez donc Poitou-Charente Nature et Sébastien Léonard, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous représentez vous la Frodon et je m'adresse premièrement à vous avec un exemple d'invasion biologique en Poitou-Charente avec une espèce végétale, l'ambroisie, qui occasionne de nombreuses gênes, tant sur le plan des cultures que sur le plan sanitaire. Et si vous êtes là, c'est aussi pour nous donner un exemple de ce qui a pu être fait ici en région pour apporter des solutions contre l'invasion de cette espèce. Alors Sébastien Léonard, qu'a pu faire la Frodon ?
Alors je vais dire peut-être...
Et dites-nous ce qu'est
la Frodon, voilà. Donc c'est une organisation professionnelle agricole qui a un statut de syndicat professionnel et sa mission première est de surveiller le territoire au niveau biologique. On surveille les organismes de quarantaine, ce que nous on appelle les organismes réglementés qui peuvent nuire à l'économie agricole. Alors ça va être par exemple la flavescence dorée en zone viticole. Ça va être la chrysomèle du maïs qu'on surveille en ce moment en Poitou-Charentes, qu'on n'a pas encore détecté, mais qui risque probablement d'arriver très prochainement. Donc voilà un petit peu la mission. C'est la surveillance du territoire. C'est des missions qui nous sont déléguées par le ministère de l'Agriculture, avec après la surveillance. Donc on avance une mission de prévention. On va lancer des procédures d'éradication quand on détecte de manière très précoce un organisme nuisible, tout simplement de confinement pour réduire les effets néfastes qui vont être liés à ces espèces-là. Alors pour nous, l'ambroisie est une espèce un peu atypique dans notre sphère purement agricole. En tout cas, c'est une espèce qui est à la croisée justement de préoccupations du monde de la santé, parce qu'elle pose des problèmes d'allergie, entre autres en région Rhône-Alpes, où elle est très développée, mais en Poitou-Charentes, on peut en témoigner, elle est également très présente et ça nous préoccupe sur ce plan-là sanitaire. Elle est à la croisée aussi sur le plan purement économique, parce que les agriculteurs dans les zones touchées en Poitou-Charente ont tout simplement abandonné pour certains la culture du tournesol, qui est pourtant une culture plutôt intéressante, en particulier en termes sur le plan environnemental, parce que c'est une culture à faible utilisation d'intrants globalement, donc c'est une culture intéressante. Ça a conduit à l'abandon de cette culture-là. Et puis sur le plan environnemental, d'une manière générale, en effet, on a une espèce qui pénètre un certain nombre de milieux. Alors ce qu'on a fait, bon, c'est surtout Poitou-Charentes Nature initialement qui a lancé l'alerte sur ce sujet-là. Du coup, c'est une politique qui a été inscrite à l'agenda politique. Ça fait l'objet d'une action dans le cadre du plan régional santé-environnement. Ça veut dire que c'est reconnu par la puissance publique, hein, il y a une légitimité à mettre en place des actions. Il y a une problématique qui a été inscrite à l'agenda, donc c'est quand même un point qui semble important déjà pour pouvoir lancer des actions. Et d'un point de vue beaucoup plus pratique, ça s'est décliné en deux actions, ça se décline actuellement en deux actions. Une action, entre autres, à l'échelle du chantier de construction de la LGV Sud-Europe Atlantique avec COSEA, et en partenariat donc avec l'Agence régionale de santé, entre autres, et pour le champ de nature, où on essaie justement de bien repérer via des prospections spécifiques où est située l'ambroisie pour pouvoir intervenir pendant la construction de la ligne avec les équipes opérationnelles de construction de la LGV pour voir avec eux comment on va faire évoluer les pratiques de construction pour prendre en compte cette espèce-là. Je ne vais pas revenir dans le détail de la biologie, mais voilà le dispositif en tant que tel qui est en train d'être mis en place actuellement. Deuxième niveau d'action, on a souhaité également, bon, plutôt que, on en parlait depuis plusieurs années de l'ambroisie entre nous, entre acteurs, on en parlait. Bon, on a décidé à un moment donné de dire on passe à l'action, on va sur un territoire, on propose un territoire, on va se mettre dans la matérialité de ce qu'est l'ambroisie sur le terrain et chercher à comprendre du coup quelles sont les solutions pour les leviers pour confiner cette espèce-là sur ces territoires. Alors en effet, on s'est posé beaucoup de questions, entre autres, est-ce qu'il faut éradiquer? On a vite compris qu'on ne pouvait pas éradiquer l'ambroisie, on peut toucher un rond, c'était terminé, en tout cas sur les foyers les plus importants. Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce qu'il faut gérer, essayer de réduire l'infestation, etc. On s'est posé beaucoup de questions, donc en tout cas c'est les premières questions auxquelles il faut se poser. Est-ce qu'on veut confiner? Est-ce qu'on veut éradiquer? Qu'est-ce qu'il est possible réellement de faire? Et donc, du coup, sur ce territoire-là, avec les représentants de la profession agricole, avec un ensemble, enfin, des représentants du monde des acteurs de l'environnement, des acteurs des territoires, on s'est posé la question, chacun dans nos domaines respectifs, à travers les milieux que chacun est amené à gérer, comment on pouvait faire évoluer les pratiques pour mener des choses. Alors, c'est une action qui s'ancrait vraiment dans un territoire, dans le concret. J'en suis ressorti finalement en me disant que c'est peut-être pas une politique à mettre en place à l'échelle d'un territoire, mais c'est peut-être plus une politique sectorielle, où c'est chaque acteur qui gère une parcelle de territoire, c'est à lui, dans ses pratiques, de faire évoluer certainement ses pratiques pour pouvoir prendre en compte ces enjeux des espèces envahissantes. J'ai envie de dire, l'ambroisie n'a pas de territoire délimité, ça ne correspond pas à des territoires déjà instrumentalisés, ce terme par les politiques publiques. Donc finalement, une approche sectorielle me paraît aujourd'hui plus pertinente. Je pense que l'ambroisie, par rapport à il y a 2 ans où elle était complètement méconnue, c'était qu'une mauvaise herbe, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'ambroisie est une espèce où, c'est un peu le pari, ambroisie égale santé, ambroisie égale allergie. On a réussi à faire passer le message. Les acteurs dans le monde agricole relaient ce message-là. Il y a une prise en compte en tout cas une portée à connaissance de cette problématique-là. Après, est-ce qu'il y a réellement une prise en charge par les agriculteurs, c'est un autre problème, c'est une difficulté.
À travers votre exemple, on voit que c'est une démarche coordonnée qui met en lien les différents acteurs, puisque on ne peut pas faire les choses en oubliant la moitié du problème. Hein.
C'est
un peu ça.
Hein. C'est une espèce qui est présente dans différents milieux, alors essentiellement dans les parcelles agricoles, mais également dans tout ce qui est milieu urbanisé. Donc ça va être sur les bords de route, ça va être sur la construction d'une voie ferrée. Donc en effet, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir malgré tout à l'échelle d'un territoire, mais c'est à réfléchir entre acteurs. Donc ça a été un projet, mis en place dans le cadre du plan régional santé environnement. Donc du coup, avec l'ensemble des catégories des acteurs. Juste un petit complément peut-être. Et là, je fais référence à un travail de thèse qui a été mené. Au centre de sociologie des organisations qui ont travaillé sur la mise en place de la surveillance biologique du territoire vis-à-vis des organismes nuisibles, donc de quarantaine dans le monde agricole, où c'est Giovanni Pretz, ce doctorant qui a soutenu sa thèse l'année dernière, ou il y a 2 ans, présentait, il disait que finalement les gens des fredons, des champs d'agriculture, etc., ils nous nommaient comme étant des médiateurs de la surveillance. C'est-à-dire qu'en effet, on a une logique de surveillance du territoire, et derrière, dès qu'on trouve une espèce, il faut l'éradiquer. Il y a toute une procédure assez lourde qu'on retrouve dans le monde animal encore de manière plus importante. Et ça, souvent, les agriculteurs n'ont pas trop envie de crier sur les toits. J'ai un organisme chez moi, je ne veux pas trop le dire, etc. Et finalement, le fait qu'il y ait des acteurs de confiance au quotidien dans la surveillance du territoire, donc c'est vraiment des gens qui sont proches, ça permet après, il y a une certaine confiance qui se met en place entre les techniciens locaux, qui fait qu'il va y avoir quand même un témoignage un petit peu informel, mais il va y avoir des remontées d'informations et une gestion de ces fameux foyers qui est possible malgré tout. Il n'y a pas un clivage entre les acteurs. Alors je voulais justement souligner qu'il est nécessaire certainement pour lutter de pouvoir surveiller. Il faut qu'il y ait des acteurs sur les territoires qui, pour permettre une lutte, puissent surveiller, être présents au quotidien.
Alors, venons-en maintenant aux questions donc qui nous sont parvenues de la salle, avec tout d'abord des questions qui s'adressent, une question qui s'adresse aux représentants de l'État. Alors, les espèces, donc c'est une question de Pierre Guy. Donc, d'abord des questions aux élus sur le plan global, et après nous viendrons à des exemples particuliers. Alors, les espèces invasives sont bien connues depuis plus de 50 ans. Les impacts agronomiques et écologiques sont reconnus. Pourquoi le ministère en charge de l'environnement est-il si indifférent? Pourquoi les ventes en jardinerie, en animalerie d'espèces exotiques sont-elles toujours autorisées? Alors, donc, c'est une question qui s'adresse à vous, Pierrick Marion.
Alors, on l'a vu, le problème des espèces invasives, ce n'est pas un problème simple parce que l'évolution des espèces, les conquêtes naturelles d'un territoire, ça fait partie de la biodiversité, d'une part, et toutes les espèces exotiques qui viennent sur un terrain naturellement ou aidées par l'homme ne sont pas forcément des espèces invasives. Pourquoi effectivement prendre tout un arsenal réglementaire pour des espèces qui ne le mériteraient pas, c'est le gros problème. Alors l'autre difficulté, on le voit sur les dizaines d'espèces qui ont été citées tout à l'heure et qui concernent notamment la région Poitou-Charentes, c'est que essentiellement les plus gros dégâts sont faits par des espèces introduites dans le cadre d'activités économiques. Souvent des activités agricoles, on a parlé en mer des activités conchylicoles, ou alors c'est des espèces réellement introduites fortuitement depuis la guerre, notamment par les Américains, avec des espèces qui étaient liées aux bateaux, etc. Donc on voit, on critique effectivement le ministère de l'Environnement sur la lenteur de prendre des textes pour interdire telle introduction d'une espèce. Alors les textes ont été pris. Il faut dire que ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'effectivement le ministère de l'Environnement s'est préoccupé notamment à la demande d'associations sur certaines espèces, notamment les lys sacrés dans le Morbihan. Donc, a sommé le ministère effectivement de prendre un arsenal réglementaire. Donc, cet arsenal a été pris dès 1995 et surtout en 2006. En 2006, désormais, la loi interdit les introductions d'espèces. Pour introduire des espèces non domestiques, non indigènes, il faut déposer un dossier avec une étude d'impact. Il y a une autorisation qui est donnée au niveau préfectoral. Après enquête, donc c'est une procédure qui est assez lourde. Donc le dispositif a été pris. Maintenant reste l'autre volet de l'interdiction commerciale de vente d'un certain nombre d'espèces qui sont connues pour être dangereuses. Et là on voit que c'est pas facile à régler, notamment pour le ministère de l'Agriculture. C'est pas que le ministère de l'Environnement qui signe un texte interdisant la vente d'une espèce. Il y a d'autres ministères qui sont en responsabilité sur ce champ, si j'ose dire, et notamment le commerce. Et le flux commercial mondial des espèces, quelles qu'elles soient, y compris des clones forestiers, animaux, est considérable. Et donc, ça n'est pas si simple que ça de désigner dans un arrêté l'interdiction d'introduction, d'utilisation, de vente. Alors, de ce que je dis, vous voyez bien que ça paraît une quadrature impossible parce que souvent, les espèces qui font le plus de dégâts sont des espèces que de toute façon on n'aurait pas pu interdire ou il y aurait eu des dérogations d'élevage parce que les textes n'interdisent pas forcément ils le mettent sous contrôle et lorsqu'une espèce peut poser un risque, il faut qu'on limite au maximum ce risque avec des dispositifs d'élevage où il risque pas d'y avoir de fuite et compagnie. L'exemple du wison américain est là. Hein. Le wison américain, on n'a pas le droit d'introduire le wison américain. Mais il y a des élevages pour la pelleterie et normalement il y a des dispositifs de double clôture, etc. Mais il y a toujours des évasions de visons américains, ne serait-ce que par des associations qui veulent libérer les visons, ne se rendent pas compte des dégâts considérables qu'ils font à la biodiversité. C'est arrivé il y a encore 2 ans dans la région Aquitaine, où le vison, effectivement, concurrence et amène des maladies, notamment aux visons européens. Donc c'est une lourde affaire, ça n'est pas que le ministère de l'Environnement qui a aussi des difficultés pour établir ses listes, notamment sur les végétaux, le mimosa par exemple. Le mimosa sur la Côte d'Azur n'est pas forcément, enfin peut être considéré comme invasif. mais pas partout. Donc mettre la liste au niveau national sur le mimosa, qu'il y a aussi des intérêts économiques importants, il faut savoir faire la part des choses, où est justement le dégât. Et c'est là que la difficulté est grande, parce qu'on le voit y compris dans le monde des scientifiques et associatifs, les réactions face aux espèces dites invasives, souvent sont des réactions passionnelles, on manque d'études, on le voit d'ailleurs, le bilan qui a été fait par un livre il y a 4 ans, là, qui a eu le mérite effectivement d'analyser tout ce que pouvait être qualifié d'espèces exogènes et parmi lesquelles celles qui seraient invasives. Il dit bien c'est un problème parce que comment on peut qualifier une espèce invasive sans études, il faut effectivement, les 2/3 par exemple ou les 3/4 des espèces ne sont pas étudiées sur leur côté justement pose un problème. Et donc on voit que le ministère ne peut pas comme ça simplement, c'est grave de prendre un arrêté, et c'est pour ça qu'effectivement ça paraît long.
Sur la partie introduction, mais une fois que les espèces sont présentes sur un territoire et posent des problèmes, qu'est-ce qui est fait par les services de l'État pour essayer d'endiguer, de limiter ces invasions?
Alors, vous avez vu le nombre d'espèces, les services de l'État, et notamment l'ADREAL, si vous parlez de ses compétences, elle est surtout préoccupée par la préservation des espèces menacées, des espèces protégées, qui sont en déclin important, et donc les moyens que l'on a sur les espèces à biodiversité sont privilégiés sur ces espèces pour faire des plans nationaux d'action, pour essayer d'arrêter l'éradication, etc. Nous ne sommes pas en charge de lutter contre les espèces invasives, c'est plus le ministère de l'Agriculture, etc., qui s'en occupe, donc nous n'avons pas de budget particulier. Ce que l'on essaye de faire, par contre, c'est d'éviter que les moyens de lutte qui pourraient être inappropriés portent atteinte à d'autres espèces ou à la biodiversité. C'est le cas du ragondin, par exemple, avec la bromadiolone. La bromadiolone est utilisée ayant des effets secondaires sur des espèces protégées, pouvant causer la mort de l'outre, etc. On a effectivement demandé progressivement l'éradication. Donc aujourd'hui, on va tout charendre. Tous les départements ont interdit l'usage de la bromadiolone pour favoriser le piégeage de ces espèces. Mais là aussi, un piégeage contrôlé, parce que le piégeage a aussi fait des dégâts à une époque sur les espèces protégées.
Alors, une question qui s'adresse maintenant à vous, Laurence Marcignot, de la part de Yasmina Vavrille. Alors, que font les collectivités territoriales? Ont-elles un rôle à jouer? Et comment agissent-elles aujourd'hui pour lutter contre ces espèces invasives?
Donc, je me centrerai sur l'action du conseil régional, puisque c'est la collectivité territoriale que je représente ici. Globalement, l'idée, on sait bien que depuis la fin des années 90, certaines collectivités locales avaient commencé à mettre en place des actions, notamment pour ce qui concerne les milieux aquatiques, puisque ça fait partie des milieux, on le sait pertinemment, Michel Caillon l'avait rappelé, que ce sont les milieux qui sont parmi ceux qui sont les plus attaqués. Donc, il y avait des actions qui existait un peu partout sur notre territoire, et donc le rôle du conseil régional a été de faciliter les liens entre les actions qui étaient entreprises, et d'où l'idée de créer un observatoire régional des espèces envahissantes. Donc c'est un observatoire qui fait appel à 2 maîtres d'ouvrage, l'observatoire régional de l'environnement, qui est, on le sait, sur notre territoire, un acteur très important pour la diffusion des données et la mise en place de banques de données, et puis le forum des marées atlantiques, qui avait déjà une expérience dans le cadre du plan Loire pour la lutte notamment contre la justice. Et donc ce sont ces 2 organismes qui sont maîtres d'ouvrage pour la gestion et la publication des données dans le cadre de l'Observatoire régional des espèces envahissantes. Donc il y a un comité de pilotage aussi qui regroupe différentes collectivités, des conseils généraux, des associations qui sont impliquées et qui donc vont permettre la réalisation de différentes cartes et le relevé de données sur le terrain. La volonté du conseil régional aussi a été d'intervenir à différents niveaux. Donc, dans le cadre de Lorenza, il y a des observateurs localement, donc que sont les techniciens de rivière qui sont les premiers confrontés et qui sont capables de détecter la présence de ces espèces. et puis des établissements publics locaux qui peuvent faire remonter de la donnée par l'intermédiaire du site internet de Lorenza, et puis ensuite des observations, des observateurs ou des coordonnateurs au niveau départemental, des coordonnateurs au niveau régional, et bien évidemment aussi une coordination interrégionale, puisque ces espèces, en règle générale, elles ne s'arrêtent pas aux frontières administratives. Donc il est bien important, et c'est aussi là le rôle du conseil régional, que de mettre en cohérence sur son territoire les acteurs qui permettent de lutter contre ces espèces envahissantes, et surtout de porter la connaissance. Parce que moi, ce qui me marque beaucoup quand on parle d'espèces envahissantes, c'est le problème de l'information, et notamment l'information du public. On l'a évoqué sur la commercialisation. Moi, personnellement, je ne sais pas, l'écureuil de Corée, je trouve que c'est un petit animal très mignon. Et moi, j'ai connu des gens qui achetaient de l'écureuil de Corée et sans avoir conscience un seul moment que ça pouvait être problématique à partir du moment où on l'implantait et où on le relâchait. Donc, je pense que c'est très important. Et là aussi, nous, on joue un rôle. Et Lorenza, sur le site, permet d'avoir des fiches sur les espèces, sur comment se comporter, comment les gérer. Et le porter à connaissance du grand public, c'est quelque chose auquel on est très attaché aussi. Pour nous, ça fait partie de la grande démarche participative. Et donc, chacun peut apporter son grain de sable à la lutte contre ces espèces.
Si j'essaie de résumer, on pourrait dire qu'il y a un axe qui vise à mobiliser les acteurs de terrain, les acteurs locaux, les associations qui sont présentes et qui sont proches du terrain pour mesurer et encadrer ces espèces-là. Et puis un autre axe qui est plus un axe de communication et d'information du public. Et en termes de moyens, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques qui sont mis soit à disposition de ces associations ou budgétisés dans...
Alors nous, au niveau budgétaire, notre soutien, il va à l'Observatoire régional des espèces envahissantes, hein, qu'on finance. Alors on finance en partenariat avec des fonds européens par l'intermédiaire du FEDER et puis l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui soutient aussi ces actions. Et c'est vrai que nous, l'objectif, il a été, avec le choix des deux maîtres d'ouvrage, vraiment le FMA qui apporte le côté scientifique et connaissance, et l'Observatoire régional de l'environnement qui permet la diffusion de cette connaissance. Et c'est vrai que on pense que notre investissement financier, c'est la meilleure manière de le valoriser en passant par cet outil.
Alors, venons-en maintenant à un groupe de questions qui concerne plus la définition de ce qu'est une espèce invasive ou du phénomène invasif. Alors, une question de Jean-Michel Minot qui s'adresse à vous. Monsieur Caillon, les modalités qui font passer une espèce invasive à la qualité de nuisible. Et si une espèce devient nuisible, est-ce que ça déclenche automatiquement des mesures ?
Oui, je pense que diverses interventions ont déjà permis de voir que il n'est pas toujours évident de trouver une frontière entre ce qui est d'origine allochtone, introduit, et de ce qui est quelque chose d'invasif, donc nuisible. Pour moi, la frontière, elle est la nuisibilité de l'espèce, et cette nuisibilité peut revêtir plusieurs aspects. Elle peut revêtir des aspects sur les écosystèmes naturels, des aspects sur l'économie, comme on l'a vu, des aspects sur la santé humaine et la santé du bétail, etc. Et certaines espèces recouvrent les trois aspects. C'est par exemple le cas de l'ambroisie, de manière plus ou moins importante selon les cas. Et c'est le cas aussi d'autres espèces. Et puis, il y a aussi, par ailleurs, la caractéristique géographique, jusqu'où ça va s'étendre. À partir du moment, effectivement, si on regarde le problème de l'ambroisie, plus de 100 communes contaminées, plus ou moins contaminées, ça représente quelque chose qui est de l'ordre de peut-être 1000, 2000 hectares. C'est quelque chose d'invasif. Reste maintenant une autre question qu'on n'a pas abordée. On ne devrait pas appeler espèces invasives des espèces autochtones. Pourtant, elles peuvent devenir envahissantes. Je prends le cas des ulves que tout le monde connaît, qui sont génératrices de marée verte, et elles le sont déjà sur notre région, sur notre littoral charentais, au Vendéen. Donc, et ça, c'est quelque chose de tellement envahissant que finalement, il y a eu mort d'homme. On le sait bien. Et pour quelle cause ? Elles sont d'origine locale, qu'il s'agisse de l'ulve armoricaine ou de l'autre ulve, l'actuca, quelles sont les raisons, on le connaît. Hein, c'est la surabondance, notamment des nitrates d'origine continentale, porcherie, épandage sous forme d'engrais chimiques, etc. Bon, alors, si je pense que, pour en revenir un petit peu à l'intention qu'a Poitou-Charentes Nature sur cette question, c'est d'essayer de faire en sorte que maintenant, on prenne le problème de manière plus systémique, comme je le disais tout à l'heure, voir si toutes ces initiatives qui, pour la plupart d'entre elles, sont bonnes, ne peuvent pas être mieux coordonnées. Une espèce invasive, elle-même toute seule, nécessite des efforts tels qu'il faut s'y mettre plusieurs, donc une action multipartenariale, et puis c'est quelque chose qui souvent concerne un milieu, et dans ce milieu, effectivement, des interactions importantes qui interviennent soit en direction de l'homme, soit en direction des autres espèces, des interactions. Donc, voilà, c'est, je pense, la nuisibilité qui est le fil conducteur. Cette nuisibilité, peut-être quelquefois, vue sous un aspect, j'allais dire, pas forcément dommageable immédiatement. Ça peut être quelque chose de plus visuel. Je pense, par exemple, au développement sur tous les axes de communication, ferrés, routiers, etc., d'un certain nombre de plantes qui finissent par donner un nouveau caractère au paysage. Le développement de l'élan sur les autoroutes, suburbaines, c'est un exemple assez remarquable, le développement de la renouée du Japon, de la même façon, près des fleuves, des canaux, des rivières, etc. Donc, je pense qu'il faudra faire quelque chose qui rassemble tout ça. Et je pense aussi, on en a parlé, il y a les scientifiques qui sont là, il y a les associations qui sont là, mais je pense qu'il faudra qu'on ait une sorte de super conseil qui soit à la fois scientifique et à la fois éthique. Je pense qu'il y a des questions d'éthique derrière tout ça. On ne peut pas dire, à la fois au niveau de l'homme, que telle ou telle méthode pour éradiquer telle ou telle espèce est nécessairement une bonne méthode. Je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous. Voilà.
Alors, un autre, j'ai groupé trois questions, toujours sur la définition ou le caractère invasif d'une espèce. Une question qui peut s'adresser à vous, Monsieur Chapuis ou Monsieur Pigeot. Les populations d'espèces invasives peuvent-elles se stabiliser, voire diminuer sur le long terme? Pourquoi lutter contre le phénomène invasif plutôt que de le considérer comme une évolution normale des écosystèmes? Et puis, toujours sur le caractère invasif, avez-vous des exemples d'espèces introduites qui se sont adaptées sans conséquence sur les écosystèmes? Alors, qui veut répondre, Monsieur Pigeot?
Alors, au niveau des espèces qui sont adaptées, je prendrai la dernière, pardon, oui. Je prendrai la dernière question, là. D'espèces qui se sont adaptées, invasives, ben, on a des petits bigorneaux, hein, notamment Cyclopène iridea, ça vous dit peut-être rien, un petit bigorneau méditerranéen, qui a été introduit sur nos côtes atlantiques, et qui aurait pu être en compétition avec la nasse, avec un autre petit bigorneau nécrophage, mais il n'y a pas de souci, il est situé en haut d'escran, l'autre un peu plus bas, et tout se passe bien, on fait avec. Par contre, il y a d'autres espèces, c'est pas le cas du tout. La crépidule, par exemple, c'est vraiment une espèce transformeur. Donc, une espèce qui a complètement transformé, à la fois, je disais qu'elle avait des aspects nuisibles, mais également, il a été montré qu'elle améliorait la biodiversité en certains endroits. Donc, vous voyez, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais enfin, globalement, c'est souvent relativement noir.
Monsieur Chapuis, sur est-ce que c'est une évolution normale des écosystèmes et puis que finalement il faut accepter l'arrivée de ces espèces?
Oui, on peut le dire un peu autrement, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise biodiversité? La question est entière. Alors pour moi la définition d'une espèce invasive, elle est relativement simple. C'est une espèce exotique qui peut poser des problèmes soit écologiques, économiques ou sanitaires. Ouais, avec ça, je pense qu'on fait le tout. C'est une espèce qui vient d'ailleurs, qui a été amenée par l'homme, qui est pas de colonisation naturelle, et qui pose un problème écologique, économique ou sanitaire. Alors, bon, par exemple, prenons le cas du tamia. Dans certaines situations, l'animal ne pose pas de problème. Mais en fait, son rôle, il le joue par l'intermédiaire de la tique, Ixodes ricinus. Dans les endroits où il n'y a pas de tique, le tamia n'est pas un problème. Par exemple, dans les parcs urbains ou en région parisienne, j'ai été un peu affolé de voir les enfants jouer dans des parcs où il y avait des tamias, et je me suis posé cette question, mais est-ce qu'ils ne courent pas un risque finalement? Eh bien finalement, ces tamias ne sont pas réservoirs de cette maladie dans les parcs, parce que il n'y a pas la tique Ixodes ricinus. Et pourquoi il n'y a pas cette tique? Parce que cette tique, elle a besoin des ongulés pour se développer. Donc là où il n'y a pas d'ongulés, il n'y a pas de tique, et il n'y a pas de problème de maladie de Lyme. Donc une espèce peut jouer un rôle important dans certaines conditions et moins dans l'autre. Et alors là, par exemple, on sait que le chevreuil joue un rôle fondamental. Est-ce que pour autant, il faut éliminer le chevreuil pour éliminer éventuellement la maladie de Lyme? Ou gardons le chevreuil en acceptant un risque de contracter la maladie? Et comme je dis à certains, lorsqu'on va se promener en forêt, on utilise sa voiture, on a un risque d'aller en forêt. Bah, pareil, quand on est en forêt, on a ce risque d'avoir cette maladie. Tout est une question de dosage, quoi, en fin de compte. Et c'est assez compliqué, quoi. Mais bon, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais elle n'est pas simple.
De toute façon. Non, de toute façon, je ne sais pas s'il y a une réponse directement à cette question, mais on peut des pistes de réflexion. Alors, une série de questions maintenant qui concernent des moyens de lutte spécifiques contre l'invasion donc de ces espèces. Alors, une question de Pierre Poupard concernant la Jussie en eau courante. Est-ce que le traitement chimique est une solution? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des résultats? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Michel Caillon, peut-être?
Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été essayé. Et c'est quelque chose qui n'a pas été efficace. Au contraire. C'est-à-dire que les moyens chimiques qu'on utilise pour détruire directement dans l'eau une espèce s'avère dommageable, non seulement aux espèces autochtones, mais à la santé de l'homme. Donc on a tout faux. Alors, pour la Jussie, on a des difficultés parce que l'extraire pose déjà des problèmes. Il ne s'agit pas de l'extraire n'importe comment en tirant dessus, parce que autant on la fragmente, autant ça va faire de nouveau départ de colonisation. Qu'est-ce qu'on en fait des produits retirés? Les incinérer, ce sera peut-être la meilleure solution. Mais à quelle température? Ne pas les mettre, j'allais dire, dans des dispositifs de fermentation. C'est la même chose, c'est très résistant. Donc, la meilleure solution, c'est effectivement de l'extraire délicatement le plus possible et de recommencer 36 fois. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Et c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme.
Alors, une question maintenant sur une espèce. Qu'en est-il de la prolifération? Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, hein, de la Caulerpa taxifolia. Monsieur Pigeot?
La Caulerpa taxifolia ne nous concerne pas au niveau littoral atlantique, puisqu'elle se développe essentiellement en Méditerranée. Bon, les causes de son introduction ont été trouvées, puisqu'il s'agit des échappées de l'aquarium de Monaco. On pensait à une époque que c'était une espèce lécepienne qui aurait franchi le canal de Suez. Donc, il y a peut-être un peu les deux, mais c'est surtout quand même l'aquarium qui a été producteur. Alors, ça pose de sérieux problèmes. On avait pensé à un petit nudibranche, je ne sais pas si ça vous dit, petite limace de mer, hein, l'Élysie, pour effectivement s'en débarrasser. Mais ça n'a pas marché. Donc, actuellement, elle met considérablement en péril les herbiers de Posidonie, qui sont l'équivalent de nos herbiers de Zoster sur nos côtes atlantiques. Donc il y a des soucis, effectivement.
Mmh. Oui, Monsieur Marion, un complément?
Alors ça, c'est un bon exemple, parce que voilà une espèce exotique introduite accidentellement, donc on n'a pas fait le circuit des autorisations administratives, etc., une fois de plus. Le monde scientifique s'est affolé parce que la propagation de cette espèce a été fulgurante. Et j'entendais très récemment, donc au point que tu ne le sais pas, qu'effectivement, elle est en train de redisparaître. Alors, c'est l'évolution typique des espèces invasives, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une évolution en cours de Gauss, c'est-à-dire que faute effectivement de compétiteurs, etc., l'espèce explose. Et puis au bout d'un certain temps, qui peut prendre un siècle, mais qui peut prendre, dans le cas de cette espèce, quelques années, une décennie, l'espèce va rentrer dans le rang parce que des prédateurs, des maladies, etc., ou un affaiblissement génétique de l'espèce vont faire en sorte qu'elle rentre dans le rang. Et donc, elle ne pose plus de problème. C'est le cas de l'Élodé du Canada. L'Élodé du Canada, au XIXe siècle, elle bouchait tous les canaux, empêchant la circulation des péniches, et l'Élodé du Canada est toujours présente, et c'est devenu une espèce rare. Qui est complètement intégrée dans la flore française, enfin on ne l'appelle plus invasif. Alors ça c'est le problème pratiquement de toutes les espèces, à part quelques exceptions animales, mais grosso modo on assiste à cette évolution. Alors le problème que vous posiez de l'introduction de lutte biologique, bah, c'est attention danger, parce que combien d'initiatives ont consisté, notamment dans le domaine agricole, à introduire le prédateur du pays d'origine, etc. Mais une fois rendu dans ce pays-là, ben, le dit prédateur se dit « mais pourquoi je vais me fatiguer à manger ça alors que je peux manger ça d'une façon beaucoup plus facile ?» Et finalement, le prédateur devient une espèce invasive sur d'autres espèces. Et ça, c'est très difficile à contrôler. Donc attention danger, c'est comme les produits chimiques, attention danger à l'introduction de prédateurs soi-disant spécialisés. Ça fait souvent traduit par des catastrophes.
On a évoqué l'aquarium de Monaco, il y a un aquarium également à La Rochelle. Est-ce que les aquariums sont particulièrement surveillés ou il y a une réglementation pour éviter, parce que là il y a vraiment beaucoup d'espèces qui viennent de partout. Alors je pourrais dire la même chose des zoos, mais...
Oui, notamment tous ces organismes importants, qui sont des organismes professionnels, doivent se doter de moyens empêchant absolument l'échappée des espèces qu'ils ont. Mais on le voit, c'est souvent des accidents. C'est, quand je parlais des visons d'Amérique, des actions la nuit visant à rompre toutes les clôtures volontairement pour que les animaux s'échappent, comment sinon interdire l'élevage des visons d'Amérique en France?
Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière série de questions qui est plus sur des critères éthiques. Alors, une question de Jean-Louis Jolivet. Beaucoup d'espèces sont déclarées invasives, non pas sur le critère dégâts aux écosystèmes, mais pour cause de gènes apportés aux activités humaines ou à notre santé. L'espèce humaine s'accorde donc le droit de limiter, voire d'éliminer des espèces concurrentes. Alors, quel fondement scientifique à ce privilège? On pourrait dire peut-être fondement éthique, philosophique. Alors, je ne sais pas qui veut apporter une réponse, Laurence Marcillot.
Je pense que dans les différents niveaux d'intervention, on ne se limite pas non plus uniquement, on le voit, bon, alors bien sûr, l'ambroisie devient un problème prépondérant parce que il y a des problèmes de santé humaine, mais lutter contre la jalousie, c'est pas forcément une implication sur les activités humaines, même si parmi les critères, ça en fait partie. Il y a des conséquences pour l'homme, mais l'homme est aussi vit dans la nature. Hein. C'est un élément des écosystèmes, et donc au même titre que les autres espèces, on prend en compte nos activités. Mais malgré tout, principalement, ce qu'on voit, c'est une protection des habitats qui vise à protéger les espèces présentes. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais même si il faudra du temps pour certaines espèces, elles pourront stabiliser, etc., on est quand même dans une phase, il faut avoir conscience, d'érosion de la biodiversité, comme on a à une vitesse qu'on a rarement connue jusqu'à maintenant. Et donc c'est une menace de plus qui participe à cette érosion, parce que c'est surtout ça le point crucial. Et puis en plus, dans une période où on a quand même de grosses interrogations sur les conséquences du changement climatique par rapport aux espèces patrimoniales que l'on possède dans notre région. Donc à partir de là, je pense que les politiques que l'on mène, elles ne visent pas uniquement à protéger les activités économiques humaines.
Alors une autre question qui est un peu sur le même sens, de Anne-Valérie Duc. Peut-on dire que l'homme a des caractéristiques d'espèce invasive par rapport au dérèglement qu'il cause sur les écosystèmes et à sa croissance démographique continue? Donc est-ce que l'homme peut être considéré comme une espèce invasive? Alors c'est un peu retourner la question, quoi, vis-à-vis de qui à ce moment-là? Michel Caillon, est-ce qu'il y a une réponse?
Oui, on a 7 milliards plus 1, donc d'êtres humains sur Terre, avec une perspective de stabilisation décrue, semble-t-il. Effectivement, l'homme est intervenu, j'ai dit, depuis très longtemps, dans lui-même, en tant qu'invasif. N'oublions pas qu'il est parti, semble-t-il, de l'Afrique orientale, et qu'il nous a progressivement, au fil du temps, subissant successivement plusieurs mutations, il a migré vers le nord, d'une part vers l'Orient, l'Extrême-Orient, et d'autre part vers l'Europe occidentale. Mais chemin faisant, il a emmené avec lui un certain nombre, dans ses bagages, un certain nombre d'espèces. Venant du Moyen-Orient, il a effectivement introduit un certain nombre d'espèces qui correspondent, j'allais dire, à nos messicoles qui tendent à disparaître, qui a accompagné d'ailleurs dans son transport aussi l'ancêtre du blé, en venant vers l'Europe occidentale. Donc l'homme, il intervient largement, on l'a vu au cours de cette conférence, on l'a vu, il intervient partout, dans tous les milieux. Et puis, on vient de parler, j'allais dire, un petit peu de cette problématique du réchauffement climatique qui nous menace. Maintenant, on va voir que le déplacement va se faire du nord au sud, de manière générale, du sud vers le nord, c'est-à-dire perpendiculairement aux autres invasions, majoritairement. Qui venait de l'ouest ou qui venait de l'est. Donc c'est un changement. Mais ça ne va pas se faire tout seul, c'est-à-dire que, un, il y a des espèces qui vont arriver, on les appellera invasives, mais il y en a d'autres qui vont partir et qui iront vers le nord et qui vont être invasives pour ceux du nord. Et ça ne va pas se faire de la même façon, parce qu'il y en a qui vont se casser la figure entre-temps.
Merci Michel Caillon, ce sera le mot de conclusion, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, en quelques secondes vraiment. Parce que...
Juste une petite chose, Laurence Marcillo. Est-il dans les intentions de la région de concevoir un dispositif de cohérence sur cet ensemble de questions?
Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'est cantonné au milieu aquatique parce que c'était ce qui posait le plus de problèmes. Sur l'Ambroisie, il y a un problème de santé publique, alors il faut aussi y associer l'État. Après, il faut faire le bilan des partenaires. Et après, bien évidemment, nous, notre démarche, c'est la mise en cohérence. Si les partenaires sont là, on étudiera effectivement la possibilité d'utiliser des outils dont on dispose déjà.
Bien, merci à toutes et à tous. Au revoir. Thank you.